Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons l'économiste français Alain Carsenti. Bonjour Alain Carsenti.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Alain Carsenti, vous êtes économiste au CIRAD, le Centre français de recherche agronomique pour le développement. Vous y êtes spécialiste de l'économie et de la gestion des ressources forestières qui, on le sait, sont très abondantes en Afrique. Vous faites de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'en plus de vos analyses, de vos recherches, vous intervenez en tant que consultant pour des organisations internationales, des gouvernements ou des entreprises, toujours dans le cadre de vos fonctions au CIRAD. Ces forêts africaines sont une source de biodiversité et de richesse économique pour ces pays. Aussi allons-nous parler de la gestion de ces ressources, de leur exploitation, de la transformation du bois, de l'appropriation par les communautés locales de ces richesses, du rôle des États et des compagnies forestières internationales. Vaste programme. Tout cela avec nos questions, vos réponses Alain Carsenti et des reportages signés Sarah Teto à Madagascar et Yves-Laurent Goma à Libreville au Gabon. Mais avant d'entrer dans le dur, dans le vif du sujet, quelques questions de Julien Clémenceau sur votre parcours, Alain Carsenti.
Bonjour Alain Carsenti.
Bonjour Julien Clémenceau.
Vous avez grandi au Maghreb, notamment en Algérie et au Maroc. Est-ce que cela a eu une influence sur votre orientation professionnelle, sur votre vocation d'économiste ?
Oui, certainement. C'est-à-dire que je me suis orienté très vite vers des sujets liés au développement, à l'économie, parce que je pensais que la question du développement et la question de l'économie étaient des choses vraiment tout à fait liées. Et j'ai commencé à travailler au Maroc. Ma thèse était sur les questions liées aux problèmes fonciers.
Et qu'est-ce qui a motivé ces travaux sur le foncier ? Parce que l'économie, ça peut s'appliquer à l'industrie, ça peut s'appliquer à plein d'autres secteurs d'activité.
La vie professionnelle et la vie tout court, c'est très souvent lié au hasard. C'est que dans mon milieu familial, dans mon entourage, les gens travaillaient sur les questions agronomiques, des sociologues, des juristes, des agronomes. Donc au fond, c'était assez logique que je commence par travailler sur le milieu rural.
Alors les terres collectives, est-ce qu'il y avait une couleur politique ? Est-ce qu'il y avait une sensibilité politique derrière cette thématique ?
Oui, parce que quand, bien sûr, c'est très intéressant de regarder quelque chose qui s'appelle les terres collectives, quand, contexte, on est quand même dans les années 80, donc tout ce qu'au fond qui est collectif est valorisé par rapport au privé. Mais avec des surprises, c'est-à-dire que finalement, je vais m'apercevoir en faisant du terrain que ces fameux, on les appelle les collectivistes, c'est assez amusant d'ailleurs. Ces collectivistes sont extrêmement individualistes parce que au fond, ils peuvent pas tellement sortir de leur cadre collectif qui a été totalement réglementé d'abord par la colonisation, ensuite par l'État marocain, et au fond, ils n'aspirent qu'une chose, c'est d'être maîtres chez eux individuellement sur leur parcelle. Donc c'est un peu paradoxal.
Alain Carsenti, vous êtes parmi les économistes un des meilleurs experts des forêts africaines. Ici en Europe, vous en êtes le témoin régulièrement, quand on entend parler des forêts africaines, c'est souvent pour se scandaliser de la déforestation, pour accuser les entreprises européennes ou asiatiques de dévaster les massifs forestiers africains. Que reste-t-il aujourd'hui des forêts africaines ? Est-ce qu'on a raison d'être inquiet, de se scandaliser, de s'inquiéter ?
S'inquiéter, oui, certainement, parce que les rythmes de déforestation sont extrêmement importants. Pendant très longtemps, par exemple, on considérait que c'était vraiment le Brésil, l'Indonésie qui étaient les grands pays où la déforestation était absolument majeure et monstrueuse. Depuis quelques années, on voit que le principal pays forestier d'Afrique, c'est la République démocratique du Congo. On s'aperçoit maintenant qu'il y a plus de déboisement en République démocratique du Congo qu'en Amazonie brésilienne. À quoi c'est dû ? C'est lié à plusieurs facteurs, je dirais quand même fondamentalement, et on le voit très très bien en RDC, en République démocratique du Congo, mais on peut le voir aussi à Madagascar, ce n'est pas tellement l'exploitation industrielle du bois qui est effectivement assez minoritaire, c'est véritablement des pressions liées à une agriculture qui n'a pas tellement d'autre choix pour renouveler sa fertilité que de toujours aller sur de nouvelles terres, avec également la volonté de se constituer des propriétés foncières, d'avoir des terres, et également pour le bois de feu. Donc, on a raison d'être inquiet. Alors, par ailleurs, sur le bois d'œuvre, sur le bois qu'on exporte, effectivement, il y a des grandes compagnies européennes, de moins en moins européennes, de plus en plus chinoises, sur lesquelles les progrès sont assez lents, même s'il y a eu des progrès effectivement récents en termes de légalité et en termes de bonne gestion.
Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Le massif forestier africain, si on devait faire une cartographie, alors on est à la radio, donc il n'y a pas de carte, mais est-ce que vous pourriez nous dessiner une géographie forestière africaine aujourd'hui?
Oui, ben disons qu'il y a trois grands types. Vous avez les forêts équatoriales qui sont des forêts plus où il pleut plus de 1200 mm par an à peu près, que vous allez trouver du Gabon jusqu'à la RDC et une partie de l'Afrique de l'Est qui sont des forêts effectivement très denses avec des arbres qui peuvent faire 50 mètres, qui aujourd'hui sont l'endroit où se passe l'exploitation forestière industrielle. Vous avez ensuite les forêts, des forêts, on va sur un gradient sur lequel la pluviométrie est plus faible. C'est ce qu'on appelle les forêts, disons, c'est des forêts moins denses. Ce sont des forêts qu'on appelle aussi les forêts de Miombo. Ce sont donc des forêts plus sèches où les arbres perdent leurs feuilles à certaines saisons, ce qui n'est pas le cas dans, effectivement, en forêt dense humide où la végétation est permanente. Et ces forêts de Miombo, ce sont celles qui finalement, où la déforestation est la plus importante. Ce sont celles, effectivement, où la collecte de bois de feu est très importante. Ce sont celles qui brûlent, notamment.
Et on les trouve où?
Eh bien, on va la trouver, par exemple, en Angola, on va le retrouver en République démocratique du Congo, un petit peu plus bas, un petit peu plus au sud, disons, que de la zone équatoriale. Donc, dans toute cette zone tropicale qui est en dessous, de la partie purement équatoriale.
Alors, vous disiez trois zones, là, vous en avez décrit deux.
Et il y a la zone sahélienne, il y a la zone de steppe, effectivement, dans laquelle on va trouver ça au Burkina Faso, on va trouver ça aussi dans beaucoup de pas mal de pays d'Afrique de l'Est, dans lesquels, qui sont souvent des savanes boisées, qui peuvent être relativement densément boisés, on va avoir des nérés, des karités, des arbres qui sont très importantes pour l'économie locale, dans lequel il y a aussi pas mal d'agroforesterie.
Et dans ces zones, c'est quoi, la désertification ou c'est aussi l'exploitation intensive du bois qui fait que les surfaces diminuent?
Il y a une relation entre les deux, bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans beaucoup d'endroits, dans ces forêts sèches et dans ces zones de steppe, où les ressources, la population augmente très rapidement. Si vous prenez le Sahel, vous avez une des zones où la population augmente. Vous savez que le Niger est le pays qui a le taux d'accroissement démographique annuel le plus important, mais le Burkina, le Mali aussi dans des situations un petit peu comparables. Donc on a ces gens ont besoin d'accéder à de l'énergie, ont besoin de faire des champs. Donc effectivement, ils coupent du bois, ils coupent des forêts, ils coupent des forêts restantes pour s'approvisionner, pour se chauffer, pour leur bois de service. Automatiquement faisant ça, il modifie le climat local, il modifie effectivement, il y a un appauvrissement des sols, surtout qu'il y a un centre de culture derrière, un centre de pratiques agricoles, et le désert va effectivement, la désertification va progresser. Ceci est amplifié par le changement climatique, bien évidemment.
Alors sur ce sujet, l'Union africaine fait la promotion d'une barrière végétale, sous le Sahara plus exactement, au Sahel, barrant l'Afrique d'est en ouest. Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça s'appelle la Grande Muraille Verte du Sahel, effectivement. Fondamentalement, c'est une bonne idée dans le concept, c'est-à-dire cette idée d'avoir une barrière végétale est très importante. Maintenant, comme toujours dans ces projets, tout dépend de la réalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il ne s'agit pas physiquement d'une barrière qui va être une barrière qu'on verra de l'espace. Il s'agit simplement de mettre en réseau des initiatives qui sont prises par des communautés, par des villageois un petit peu partout. Ce qui déjà est beaucoup plus réaliste que cette idée, effectivement, de planter dans des zones très désertiques. Le problème est très simple. Hein. J'ai travaillé au Burkina Faso il y a encore 2 ou 3 ans. Toutes les grandes entreprises de reboisement, lorsqu'elles ne sont pas appropriées, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas véritable, elles ne sont pas faites par les paysans dans le sens de la logique paysanne, cela échoue. Le reboisement dans les forêts classées, par exemple au Burkina Faso, on a dépensé peut-être des millions de dollars pour faire du reboisement. Absolument, le taux de résultat est pratiquement nul. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est plutôt que les paysans, aider les paysans à remettre des arbres dans leurs champs. Il faut qu'ils mettent des arbres utiles, il faut le mettre avec... il faut, par exemple, qu'on ait des arbres qui soient utiles pour leur économie, qu'ils captent de l'azote, comme du Federbia albida, par exemple, qui vont être bénéfiques pour augmenter le rendement des cultures. Véritablement, construire une agroforesterie avec les paysans, c'est ça la réponse. Et je pense que les plantations d'arbres, disons, telles qu'ils sont un peu vues, de ce point de vue, risquent d'échouer.
La forêt africaine, on l'a vu, donc est menacée par la déforestation. Est-ce qu'elle est aussi menacée par les grands feux, comme on l'a vu en Amazonie ?
Alors, il y a eu cet été, effectivement, nous avons vu, il y a eu beaucoup d'alertes sur le fait que, y compris la forêt africaine, on a parlé du bassin du Congo brûlé. Alors, jusqu'à présent, il y a eu peu de feux dans la forêt dense équatoriale humide qu'on va trouver au Congo, qu'on va trouver au Gabon, qu'on va trouver dans une bonne partie du Cameroun. Même si récemment, par exemple au Congo, Brazzaville, il y a eu des zones de feu assez importantes là où on les attendait pas. Donc il y a des changements qui sont en train de se produire. Mais malgré tout, c'est une forêt qui, pour l'instant, cette forêt humide est assez peu encore, disons, attaqué par les feux. Par contre, un petit peu en dessous, les fameuses forêts de Miombo dont nous parlions, des forêts sèches, sont des forêts qui, de toute façon, brûlent chaque année. Brûlent chaque année parce que cela fait partie des pratiques agricoles des paysans, des pratiques d'abattis brûlis. Et finalement, donc ces forêts, en grande partie, repoussent. Elles repoussent, effectivement, d'une année sur l'autre. Ce qui se passe simplement, c'est que avec l'augmentation de la population, avec l'augmentation des surfaces cultivées et avec l'augmentation de l'intensité des feux liés à des sécheresses de plus en plus importantes, ce qui va repousser va être toujours beaucoup moins important en termes de biomasse, en termes d'arbres, et on va avoir des arbres plus petits, plus épars. Donc de toute façon, nous avons un véritable processus de dégradation et de savanisation de ces forêts.
Alain Carcenti, on l'entend, on le mesure à votre discours depuis le début de cette émission, votre connaissance de ces forêts est infini, intime. Est-ce que ça veut dire que vous passez beaucoup de temps à les arpenter, à vous promener, entre guillemets, dans ces massifs forestiers ? Est-ce que vous chaussez les bottes ? Ou est-ce que vous êtes un économiste en chambre ? Est-ce que vous êtes sur le terrain beaucoup ?
Oui, je suis sur le terrain, moins que je le souhaiterais finalement. Je fais les deux, c'est-à-dire que au fond, je suis économiste, je travaille également sur des questions de politique forestière. J'ai beaucoup de dialogues politiques notamment avec les gouvernements, avec les administrations. Mais chaque fois que je peux, je vais sur le terrain. On a des projets sur le terrain. Je parlais du Burkina Faso tout à l'heure, que ce soit au Gabon, que ce soit dans différents pays. Donc j'essaie d'aller dans les endroits, discuter avec les paysans, parce que ça me paraît très très important d'avoir bien évidemment cette dimension. Rester purement au niveau des administrations, au niveau politique, sans comprendre comment les propositions politiques qu'on fait sont appropriées, sont éventuellement détournées, reçues par les paysans et les populations locales, serait une erreur fondamentale.
Est-ce qu'il y a un changement d'ambiance dans ces forêts par rapport à ce que vous ressentiez au moment où vous avez démarré dans cette activité il y a plusieurs décennies maintenant ?
Oui, il y a d'une part, dans beaucoup d'endroits, on commence à sentir malgré tout les effets des pressions sur les ressources, c'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler il y a environ 25 ans, avec les premiers séjours dans les forêts, on avait beaucoup plus un sentiment où le problème de la ressource ne se posait pas. Les problèmes de ressources commencent à se poser, que ce soit sur des produits de chasse, que ce soit sur, bien évidemment, sur le bois. Je pense qu'on va en parler, mais on commence à voir un certain nombre d'entreprises forestières qui n'ont plus assez de bois, en tout cas de bois d'œuvre pour s'approvisionner et qui mettent la clé sous la porte. Et puis, on voit un développement très important d'un certain nombre de où la forêt commence à être morcelée. Et la forêt commence à être de plus en plus colonisée par des petites plantations, ici de palmiers à huile ou d'autres plantations agricoles. Donc ce qui est important, ce qu'on voit, c'est cette mise à part des pays comme le Gabon, qui sont très peu peuplés, où il y a encore de très grands blocs, on voit une grande morcellisation de ces forêts, avec de plus en plus de monde dans ces forêts, effectivement, et donc de plus en plus d'autres activités qui sont en concurrence.
Alors le Gabon, parlons-en. Depuis un peu plus de 10 ans, le pays a interdit l'exportation des grumes de bois. Le but, c'est favoriser le développement d'une industrie locale pour maximiser les retombées économiques pour le pays en transformant le bois sur place. Le correspondant de RFI à Libreville, Yves-Laurent Goma, a rencontré le ministre gabonais des Forêts. On écoute cet entretien.
Le ministre gabonais des Forêts, Lee White, avoue que l'économie du pays a énormément souffert lorsque le président Ali Bongo a brutalement et de façon radicale décidé d'interdire l'exportation de bois brut.
Le secteur a souffert immédiatement après la décision Donc on est passé de 14 000 emplois à 7 000. La mesure du président de la République a été très critiquée au Gabon et ailleurs.
10 ans après, le Gabon se frotte les mains, tous les indicateurs du secteur sont au vert.
Mais aujourd'hui, on voit qu'on a rattrapé ces emplois. On est à peu près 22 000 emplois et qu'on a à peu près triplé l'économie forestière. Cette année, on va avoir à peu près 1 milliard d'euros de revenus. On va encore ajouter des emplois. J'ouvre une usine presque tous les mois.
Marginale depuis plusieurs années, la participation du bois au PIB a naturellement connu une importante hausse, se réjouit Lee White.
On a augmenté de 5% à 12%. On est déjà plus grand employeur après la fonction publique et on devient de plus en plus un leader dans la transformation du bois en Afrique.
Ces bonnes performances sont par ailleurs le fruit d'énormes sacrifices. Le Gabon a créé la zone économique spéciale de Nkok à 27 km de Libreville. Tous les industriels qui ont accepté de s'y installer bénéficient de 10 ans d'exonération de taxes.
On a créé, grâce à cette politique, 70 usines. On est parti de 15% transformation au Gabon à 100%. Transformation au Gabon, on est parti d'une transformation de base, scier les planches, à une transformation troisième degré. On est en train de multiplier par 10 en 15 ans les revenus qui viennent de la forêt avec la même quantité de bois.
Pour garantir une exploitation durable de ces forêts, le Gabon mise sur le planting de certaines espèces et surtout la certification de toutes les exploitations.
Notre stratégie sur les prochaines 5 ans, établir 200 000 hectares des plantations pour que la forêt fasse une contribution digne à l'économie.
Délaissée durant les années fastes du boom pétrolier, la forêt devient l'un des moteurs de la diversification de l'économie gabonaise.
Lee White, le ministre gabonais des forêts, au micro de Yves-Laurent Goma de RFI à Libreville. Question de Julien Clémenceau pour vous, Alain Carsanti.
Alain Carsanti, le ministre gabonais Lee White, fait un bilan extrêmement positif de l'interdiction de l'exportation des grumes de bois. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Disons qu'il y a plusieurs aspects. Sur l'aspect transformation du bois, c'est absolument incontestable. Il y a de très nombreuses usines qui se sont, justement grâce à la zone spéciale économique de Nkok, qui est une zone franche, qui se sont ajoutées aux usines qui existaient déjà dans le pays et qui continuent à se développer. Je ne connais pas les chiffres exacts aujourd'hui de création d'emplois. Je pense qu'il faudrait connaître des statistiques exactes, mais il est tout à fait possible qu'on ait aujourd'hui plus d'emplois, en tout cas emplois industriels, que ce n'était le cas avant. Du point de vue économique, il y a quand même une dimension qu'il faut aussi indiquer, c'est que les recettes fiscales venant du secteur forestier, par contre, se sont effondrées. Donc, disons qu'il y a des emplois, mais il y a beaucoup moins de revenus fiscaux, ce qui quand même aussi est un des aspects et serait le pendant négatif de ce problème.
Pourquoi ces revenus se sont effondrés ?
Eh bien, parce que l'essentiel de la fiscalité, comme à peu près dans la plupart des pays, notamment d'Afrique centrale, est associé à l'exportation des grumes. Et l'exportation des grumes, c'est quelque chose qui rapporte énormément de finalement de taxes. Et lorsque vous n'exportez plus de grumes, le gouvernement n'a pas voulu reporter finalement la fiscalité sur le bois qui est transformé pour ne pas pénaliser les exportations, ce qu'on peut effectivement tout à fait comprendre. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, le ministre le disait, le Gabon, la production de bois du Gabon, probablement est revenue à ses niveaux les plus importants, c'est-à-dire qu'on doit probablement produire peut-être pas loin de 4 millions de mètres cubes par an de bois, effectivement, au Gabon, c'est-à-dire que la production est remontée en force, et ce n'est pas terminé, probablement.
Alain Carsanti, vous êtes économiste au CIRAD et vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Une nouvelle question de Julien Clémenceau pour vous.
Au Gabon, la société singapourienne Olam occupe une place très importante dans la filière bois. Elle produit, elle transforme, elle est gestionnaire de la zone économique spéciale où les entreprises transforment les grumes. Est-ce que c'est une bonne chose? Quelle appréciation vous avez de cette situation?
Alors le rôle de l'âme est très particulier. Bon, le Gabon a fait un choix, disons d'une certaine manière, de déléguer beaucoup d'un certain nombre de ses prérogatives à Olam, qui est un partenaire de l'État gabonais. Un certain nombre d'opérateurs économiques considèrent que peut-être que la place de l'âme est devenue beaucoup trop grande par rapport, disons, à ce qui serait conviendrait de faire. Ce qui est clair, c'est que Olam a été un artisan de la politique, a été vraiment un peu le fer de lance de la nouvelle politique gabonaise, que ce soit dans le bois, que ce soit dans l'agriculture. Olam, c'est d'abord un planteur de palmiers à huile, c'est un planteur d'EVA, et dans le bois, il a été effectivement l'opérateur de la zone d'Uncock. Alors cette zone d'Uncock, pour revenir sur un point précédent, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se demander du point de vue du bois, c'est s'il n'y a pas eu des surinvestissements dans cette zone, c'est-à-dire qu'effectivement, attiré par les avantages fiscaux de cette fameuse zone franche, on a eu de très nombreux investisseurs, notamment indiens, mais également chinois qui se sont installés. Et aujourd'hui, on est peut-être dans des situations de surinvestissement et de surcapacité par rapport à ce que la forêt peut fournir, sachant que la forêt peut fournir beaucoup de bois en théorie, mais que en réalité tout le monde cherche les mêmes essences, tout le monde cherche de l'okoumé de certains types de qualités.
Donc il y aurait une surexploitation de la forêt gabonaise, c'est le risque.
Le risque, c'est qu'il y ait effectivement des surexploitations, pas de la forêt gabonaise dans son ensemble, mais de certaines essences, certaines espèces particulières que tout le monde cherche. Et ça, c'est toujours le problème, parce que les forêts, si vous voulez, en Afrique centrale, en général, elles sont sous-exploitées si on regarde les volumes qui sortent par rapport à ce qui sort dans d'autres pays. Mais par contre, certaines espèces, certaines essences sont surexploitées. Et là, c'est un risque pour la biodiversité et pour certaines essences qui sont absolument clés dans le fonctionnement des écosystèmes.
Est-ce que d'autres pays, Alain Carsenti, ont suivi l'exemple du Gabon en interdisant les exportations de grumes?
Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui, au départ, venait de l'Indonésie, notamment, par exemple, les pays asiatiques ont beaucoup mené cette stratégie. Ça aboutit toujours un petit peu à la même... finalement, le modèle est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une mesure politique qui consiste à interdire l'exportation des grumes. Cela conduit, finalement, à un développement important de l'industrie. Cela conduit également à des effets en termes de baisse de recettes fiscales, comme j'en parlais, mais ça conduit souvent à des phénomènes de surcapacité. Et l'Indonésie est un exemple tout à fait intéressant, parce qu'on a eu pendant des années des surcapacités massives dans le domaine de la transformation du bois, et c'est ceci qui a été finalement à l'origine, au fond, d'un développement très très important de l'exploitation illégale, parce qu'il fallait absolument approvisionner les usines, et on différait les moments de la restructuration qui était nécessaire. Aujourd'hui, disons que les forêts indonésiennes ont été, par exemple, extrêmement dégradées, et puisqu'elles sont dégradées, les politiques des gouvernements ont été de dire, sur ces forêts dégradées, faisons du palmier à huile, ce qui probablement est un phénomène qui peut menacer aussi un certain nombre de pays africains.
Il y a 2 ans, un groupe français important, très connu dans le milieu forestier, le groupe Rougier, qui était implanté depuis des décennies en Afrique, vraiment un groupe historique, a connu de graves difficultés, il a partiellement fermé boutique. Et dans un article que vous avez consacré à cet événement, vous expliquiez que cette fermeture, cette difficulté que connaissait le groupe Rougier, marquait un tournant. Quel genre de tournant? Dans quel sens?
Alors, il y a un double tournant. Le premier tournant, c'est que depuis quelques années, on voit le fait que les intérêts, disons, que les grandes entreprises européennes dans ce secteur sont en recul. Elles vendent leurs actifs, et elles vendent leurs actifs généralement à des entreprises chinoises.
Elles vendent leurs concessions?
Elles vendent leurs concessions, elles vendent leurs usines, elles vendent leurs concessions, absolument, elles vendent leur participation. Et donc, ceci est lié au fait que les entreprises chinoises ont une série de performances économiques peut-être qui sont plus importantes, liées au fait qu'ils utilisent beaucoup plus d'essence de bois que n'en utilisent les Européens, liées au fait qu'ils ont des acheteurs qui demandent toute une série de qualités du bois alors que les Européens doivent se concentrer sur les qualités que demande le marché, c'est-à-dire les qualités les plus élevées. Il y a également d'autres facteurs économiques qui sont liés au financement. L'accès au financement des entreprises chinoises est beaucoup plus facile. Ils ont des préfinancements pour exploiter du bois, c'est-à-dire que les clients préfinancent un certain nombre d'activités, ce qui leur permet de se passer du crédit bancaire très difficile, etc. Ce qui fait donc il y a pas mal de différences. Donc ça, c'est ce changement de main qu'on voit, c'est un changement de période. Il est très clair qu'aujourd'hui, l'industrie forestière au sens large, les concessions, etc., sont aujourd'hui dominées très très largement par ces acteurs asiatiques et notamment ces acteurs chinois. L'exportation du bois, les trois quarts du bois maintenant, aujourd'hui, de l'Afrique, non seulement l'Afrique centrale, mais également l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique, on peut parler également de la Tanzanie, part en Chine. Maintenant, le Vietnam devient un acteur de plus en plus important et on voit aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, des opérateurs économiques, effectivement, vietnamiens s'installer dans des conditions de légalité tout à fait douteuses, d'ailleurs. Et l'autre élément du tournant, c'est que on arrive à la fin d'un cycle qui est un cycle dans lequel au fond, on pouvait, exploiter certaines essences qui étaient relativement abondantes, les exporter sous forme de grumes ou sous forme de sillage, et on s'aperçoit que on arrive un peu à la fin de l'exploitation des forêts primaires, et aujourd'hui, il y a une pénurie. Les opérateurs économiques n'arrivent plus à retrouver certaines essences qui étaient absolument fondamentales pour leur équation économique. Le fameux sapelli au Congo, il reste, bien sûr, mais on voit que dans certains endroits, il commence à se faire rare, et donc ça pose des problèmes à certains opérateurs économiques. L'ayous, au Cameroun, qui est aussi une essence principale.
Qui sert à quoi, par exemple,
des contreplaqués, des portes, etc. Souvent des panneaux. Le sapelli, ça fait par contre de l'ébénisterie, du sillage. Donc, ce sont des essences qui ont des valeurs commerciales importantes et qui servent dans l'ameublement. La question, c'est demain, par exemple, au Gabon, le koumé est une espèce qui est encore très abondante, mais en tout cas, certaines qualités de koumé commencent à devenir difficiles à trouver dans les forêts gabonaises. Donc ça, c'est en ça qu'il y a un deuxième tournant, c'est qu'on arrive à un moment où certaines ressources s'épuisent. La forêt, cette forêt est toujours là, mais sa composition change et le changement climatique risque en plus d'aggraver les choses.
Et ces changements, ils vont être définitif. Vous pensez qu'on pourra revenir en arrière ou c'est la disparition de ces espèces ?
Non, on peut revenir en arrière. Alors, il y a deux manières de revenir en arrière. D'une part, c'est en régulant beaucoup mieux l'exploitation. Régulant mieux l'exploitation forestière, ça, c'est tout le rôle éventuellement de l'aménagement forestier, de la certification qui a progressé mais qui stagne aujourd'hui, en Afrique. On peut également faire des plantations. On peut faire des plantations d'enrichissement notamment, mais ceci pour l'instant coûte cher. C'est-à-dire aujourd'hui, les plantations, on plante quand véritablement il n'y a plus assez de bois. Or, il y a par exemple en Afrique centrale encore beaucoup de bois, donc économiquement, c'est pas très intéressant effectivement de faire des plantations. Le deuxième obstacle pour les plantations, c'est le problème du foncier. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de clarté foncière, tant que vous n'avez pas, personne ne plante si on n'a pas une certitude effectivement que dans 20-30 ans, on pourra récolter ce bois, on n'aura pas effectivement des revendications sur la terre qui auront été faites.
Vous parliez de la Chine à l'instant, Alain Carsanti, du lien très fort donc, qui existe entre ces forêts africaines et cette industrie chinoise, cette économie chinoise. Il y a un phénomène actuellement qui est un phénomène sanitaire, le coronavirus, qui va peut-être contribuer à ralentir un peu plus encore la croissance de l'économie chinoise. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur l'activité forestière africaine ?
Ah oui, alors là, la sensibilité aujourd'hui, quand il y a des stocks très importants de bois, lorsqu'il y a effectivement une baisse de l'activité en Chine, cela se ressent immédiatement sur les chiffres des exportations, sur les exportations de bois africain. Je lisais hier que déjà le prix de l'huile de palme avait baissé de 10% de manière très, et c'est lié à la baisse, à la crise effectivement sanitaire qui est en train de se développer effectivement avec la Chine et en Asie en général. Donc effectivement, je dirais que le destin du secteur du bois, au fond du bois industriel en Afrique, est complètement lié à la Chine et peut-être de plus en plus à deux autres acteurs qui sont en train de monter, c'est le Vietnam et l'Inde. Le Vietnam et l'Inde, ce sont des pays qui ont des déficits de bois très très importants. Le Vietnam devient un acteur absolument majeur de l'industrie du bois au niveau mondial. Et donc, on voit de plus en plus qu'il importe, et notamment qu'il importe du bois africain. Et l'Inde également est un acheteur de plus en plus important pour les mêmes raisons. Ils ont des besoins qui sont absolument considérables, comme les besoins chinois. Donc, très clairement, les destins maintenant sont liés.
Est-ce que ces deux nouveaux acteurs, en tout cas ces acteurs qui ont pris de l'importance, l'Inde et le Vietnam, Alain Kersanti, est-ce qu'ils sont davantage sensibles à la certification et à l'exploitation durable des forêts que ne le sont les groupes chinois?
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques jours, la Chine a décidé, enfin, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps, disons de prendre des mesures qui commencent à être comparables à ce que fait l'Europe, c'est-à-dire à interdire l'exportation de bois illégal. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une pression sur les importateurs chinois qui pourront effectivement être pénalisés si ils sont convaincus d'avoir importé du bois qui n'est pas légal. L'Europe a déjà ce dispositif et ça devrait effectivement être quelque chose qui va peu à peu améliorer la situation. Pour l'instant, effectivement, les entreprises chinoises étaient dans des situations, disons, tout à fait limites par rapport à la légalité. Et ça, c'était un problème que les gouvernements africains eux-mêmes voyaient très bien. D'où d'ailleurs la décision du Gabon de rendre la certification obligatoire avec l'idée que les entreprises chinoises seraient obligées d'être certifiées et que donc, au fond, on transfère à quelqu'un d'autre la vérification, on transfère à un standard international le fait de vérifier qu'il y a légalité, qu'il y a durabilité. Le Vietnam et l'Inde, ça va prendre plus de temps. Et ça, ce qui risque de se passer, peut-être avec cette mesure, c'est que peut-être que la Chine il va y avoir peut-être une baisse des importations chinoises, parce qu'il y aura cette obligation de contrôler la légalité. Et par contre, l'Inde et le Vietnam vont peut-être effectivement prendre des parts de marché beaucoup plus importantes. C'est tout à fait possible. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord essayer, justement. Faut pas trop compter sur les acheteurs. Bon, l'Europe, bien sûr, essaye d'acheter du bois légal. C'est pas toujours facile. Mais ensuite, l'Europe a perdu beaucoup de parts de marché, c'est la Chine qui les a récupérées. La Chine, probablement, va devenir beaucoup plus exigeante dans ses achats, mais probablement l'Inde et le Vietnam vont prendre la suite. Donc, on voit très bien que fondamentalement, la question de la légalité, c'est bien sûr, il y a le rôle des acheteurs, mais c'est fondamentalement dans les pays que l'application des lois doit se faire. Et donc, de ce point de vue, c'est vraiment des questions de politique et de gouvernance.
Le rôle des ONG comme Greenpeace est très important, très positif en matière forestière.
Alors oui, disons que le fait qu'il y a eu les ONG depuis 20-25 ans, ça a bien sûr transformé pas mal de choses. D'abord, ça a mis la pression sur des entreprises qui auparavant ne voulaient pas tellement bouger, mais maintenant avec l'environnement médiatique, il y a les questions de réputation sont extrêmement importantes. Les ONG ont joué un rôle pour pousser la certification. Maintenant, si vous voulez une ONG comme Greenpeace, elle joue son rôle de manière très positive en termes de dénonciation. L'un des problèmes, c'est qu'elle est dans une logique d'opposition à l'exploitation forestière industrielle, au système des concessions, préférait qu'il y ait des forêts communautaires, préférait effectivement une autre logique. On peut tout à fait avoir cette position. Simplement, le pari qu'on peut faire, c'est qu'on doit être capable d'exploiter les forêts sans détruire. Et que de toute façon, aujourd'hui, l'exploitation forestière, où on a entendu, effectivement, on a vu le cas du Gabon, est devenue quelque chose de très important pour les pays africains dans leur économie. Et je dirais même que si aujourd'hui, les forêts ne jouaient pas leur rôle de pourvoyeur de recettes fiscales, de pourvoyeur d'emplois, de pourvoyeur, effectivement, de services, probablement, les gouvernements, et ils sont malheureusement déjà tentés de le faire, beaucoup de gouvernements, aurait des politiques qui consisteraient à faire défricher les forêts pour mettre à la place des plantations de palmiers à huile ou d'EVA ou d'agriculture, comme au fond ça s'est passé en Asie. Et donc probablement, là ça serait une catastrophe pour les forêts et surtout pour les pays africains eux-mêmes, parce que conserver les forêts en Afrique, c'est pas tellement. Le but, c'est pour le changement climatique, la biodiversité, qui sont des biens publics mondiaux, c'est très clair. Mais en fait, le principal avantage qu'auraient les pays africains à garder leurs forêts, c'est pour eux-mêmes. C'est-à-dire que eux vont être frappés par les changements climatiques. Et le fait d'avoir effectivement, des massifs forestiers importants, eh bien, c'est le meilleur moyen d'avoir des solutions, de pouvoir s'adapter, de pouvoir maintenir des conditions climatiques qui soient à peu près viables et d'éviter la désertification de certaines zones.
Alain Kersanti, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On va partir dans un autre pays avec un reportage à Madagascar où, d'après une analyse d'images satellites de nos confrères de la BBC publiée l'an dernier, sur les 30 dernières années, presque 80% des forêts de la Grande Île ont disparu. Le gouvernement malgache a fait du reboisement une de ses priorités, un impératif pour éviter que le pays ne sombre encore plus dans la misère et ne perde à jamais l'essentiel des 11 000 espèces de la flore endémique de l'île. C'est un reportage de notre correspondante Sarah Teto à Antananarivo.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sujet des forêts à Madagascar n'est pas un sujet marginal pour amoureux de la nature, c'est un sujet existentiel pour le pays.
Jean-Philippe Palazzi est le cofondateur d'INDRI, le premier think and do tank dédié à la promotion des changements visibles dans les paysages terrestres, urbains et côtiers de l'île. Les raisons qui ont conduit à l'agonie des forêts, selon lui, les voici.
Madagascar est un pays qui, depuis plusieurs décennies, est pris dans ce que les chercheurs appellent la trappe à fragilité, c'est-à-dire qu'il y a des crises économiques et des crises politiques qui se renforcent mutuellement. Et chaque fois qu'il y a une crise politique, l'aide internationale s'interrompt, ce qui vient renforcer encore plus la pauvreté. Et le résultat de ces crises depuis plusieurs décennies, c'est qu'une grande partie de la population, 78%, c'est un des records mondiaux, est dans l'extrême pauvreté. Qui dit extrême pauvreté, dit économie de subsistance. Donc on va aller brûler les forêts pour cultiver. On va utiliser le charbon de bois comme source presque exclusive d'énergie pour la cuisson des aliments. Et on va avoir une démographie très dynamique.
Conséquence, le capital naturel du pays disparaît. Vu du ciel, l'image est saisissante. Sur des centaines de kilomètres, des collines pelées, noircies. Un paysage plus du tout productif. Or, dans un pays où 80% de la population dépend encore de l'agriculture, les bases du développement sont compromises. Et l'exode rural, inévitable si aucun changement n'est opéré en urgence.
Avec la déforestation actuelle, dans 5 ans, la forêt des baobabs aura disparu à Madagascar. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune activité possible, ni touristique, ni même de l'agroalimentaire. C'est 850 000 personnes qui ne pourront plus survivre dans cette région-là.
Erwan Rabenevanan s'est mis au défi de renverser la tendance. Au travers de sa structure Dry Forest, l'entrepreneur social enseigne le maraîchage durable et la valorisation des produits forestiers non ligneux.
Par exemple, avec les fruits du baobab, nous récoltons les graines pour en faire de l'huile. Le tourteau restant, qui est normalement un déchet, au lieu de le brûler, nous l'utilisons comme un fertilisant naturel pour les pépinières que nous avons mises en place, faire du maraîchage bio avec justement la forêt elle-même. Le but, c'est de leur montrer qu'en préservant les forêts, ils étaient capables d'en vivre et de bien en vivre.
Reboiser le pays massivement et dès maintenant, le gouvernement l'a bien compris. Mais sa manière de faire déçoit les organisations écologistes. Et sans se planter, pas adapté au terrain, plan trop jeune, manque de concertation avec les spécialistes de la question. La dernière opération menée en janvier par le président de la République a pris des allures d'opération de communication plus que de reboisement. Cependant, Jean-Philippe Palazzi reste confiant.
Aujourd'hui, Madagascar a tous les ingrédients en place pour réussir ce pari Madagascar-Île verte. Il y a une volonté politique de le faire. Il y a une qualité des acteurs, c'est vraiment un pays où entre le secteur privé, les ONG, les services de l'État, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent en matière de forêt. Il y a quand même des financements internationaux qui peuvent être mobilisés, etc. Donc je crois que ce qu'il manque pour réussir, c'est peut-être une vraie approche collective. Comment est-ce qu'on fait pour en même temps conserver les dernières forêts primaires et restaurer le reste du paysage au bénéfice de toute la population.
Objectif de Dry Forest pour 2020, replanter 100 000 baobabs dans l'ouest du pays ainsi que 900 000 autres espèces indigènes de la forêt sèche malgache. De son côté, le gouvernement vise les 60 millions d'arbres replantés d'ici juin pour les 60 ans d'indépendance du pays.
Reportage signé Sarah Teto à Antananarivo. Vous êtes optimiste, comme l'était cet interlocuteur, sur la survie de Madagascar, île verte, Alain Carcenti?
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dynamique de la société civile, d'associations extrêmement impressionnante à Madagascar. Malheureusement, pour l'instant, pour les raisons qui ont été indiquées, de pauvreté, de crise politique récurrente, de démographie, pour l'instant, le processus de dégradation continue. Je crois que c'était très bien dit. Je crois que personnellement, je ne crois pas du tout à des grandes opérations de plantation de millions d'arbres, de milliards d'arbres. Je pense que il faut véritablement travailler avec les paysans et de voir comment on peut intégrer les arbres dans les systèmes agraires, dans les systèmes agricoles des paysans. Et pour ça, je crois, une des choses que j'essaie de faire dans différents pays et dans différents pays africains, en travaillant avec des bailleurs de fonds, avec des gouvernements, c'est de proposer qu'on ait des programmes de ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. Le problème, c'est véritablement maintenant de pouvoir rémunérer les paysans pour qu'ils développent de l'agroforesterie, pour qu'ils remettent des arbres dans leur système de culture. Et pour cela, il faut des ressources. Il faut des ressources financières. Les ressources financières, on peut les avoir en grande partie avec la communauté internationale. Il y a le Fonds vert pour le climat qui est tout à fait disposé à faire ce type, à financer ce type de projet. Il y a de très nombreux bailleurs qui sont prêts à le faire. Mais il faut aussi qu'il y ait des ressources nationales, qu'il y ait des ressources domestiques. En Amérique du Sud, au Costa Rica, au Mexique, ces programmes, qui sont des programmes nationaux très ambitieux, sont financés par des ressources, en grande partie par des ressources, taxes sur le carburant au Costa Rica, redevances sur l'eau qui vient financer au Mexique et au Costa Rica également ce fonds pour financer les PSE. Je crois que fondamentalement, c'est absolument nécessaire d'augmenter le revenu des paysans, mais de manière en faisant en sorte qu'ils plantent des arbres et qu'ils conservent les derniers forêts primaires. On a des modèles qui fonctionnent. Il faudrait effectivement, c'est là-dessus, je pense qu'il faut s'orienter.
Julien Clémenceau, une question.
Donc Alain Kersanti, pour protéger les forêts, vous êtes le partisan d'une fiscalité dédiée.
Oui, je crois que, si vous voulez, l'approche projet, on fait beaucoup de projets de reboisement qui bon peuvent être plus ou moins bien conçus. Le problème, c'est qu'un projet, c'est 4 ans, 5 ans, et ensuite, ça s'arrête. L'un des grands problèmes, c'est qu'on a des approches internationales qui s'interrompent, qui effectivement ne sont pas suivies. Et je crois que fondamentalement, les pays ne peuvent pas construire des politiques à long terme s'ils n'augmentent pas leurs recettes, s'ils n'ont pas des revenus qu'ils sont capables d'affecter, notamment l'environnement. Jusqu'à présent, la plupart des pays, effectivement, considéraient que l'environnement, c'était l'affaire de l'aide internationale. Et ça veut dire qu'ils ne se sont pas appropriés fondamentalement les questions de financer la gestion de l'environnement, qui passe aussi par le financement de politiques agricoles, de politiques d'agroforesterie. Donc je crois qu'il est absolument fondamental qu'on change de logique, qu'il commence à y avoir effectivement, de se poser la question de comment une partie des revenus, qui peuvent être des revenus notamment des populations urbaines, sur des produits qu'elles consomment tous les jours, y compris les unités téléphoniques, la bière qu'elles boivent, etc., puisse être effectivement affectée à la campagne, à des paysans, qu'ils conservent des forêts, qu'ils fassent de l'agroforesterie. C'est-à-dire que c'est vraiment un transfert entre les deux.
Est-ce que certains États africains réfléchissent ou vont mettre en pratique ces taxes sur des produits consommés par les urbains pour protéger les forêts ?
Alors c'est tout le sens du dialogue politique que j'essaie d'avoir avec un certain nombre également d'autres organisations que nous avons eu en Côte d'Ivoire, que nous proposons aussi à Madagascar, nous avons eu au Burkina Faso, etc. C'est de dire, d'une certaine manière, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Au fond, on sait que les bailleurs de fonds sont tout à fait disposés à augmenter le niveau de leur financement dès lors qu'ils voient qu'il y a des financements effectivement nationaux qui sont affectés à ça. Il serait tout à fait possible un certain nombre de redevances qu'on pourrait mettre sur des produits de grande consommation, donc à très large base, avec de très faibles taux, qui n'auraient pas un impact social très fort, effectivement, de financer des programmes comme ça. Et s'il y a des financements qui sont à ce moment-là des financements récurrents, c'est-à-dire qui ne vont pas s'interrompre au bout de 3 ou 4 ans, je suis absolument persuadé que les grands bailleurs de fonds internationaux viendront absolument apporter ce qui est nécessaire pour avoir un effet de levier.
Alain Kersanti, vous insistez sur l'importance du rôle des paysans, des communautés forestières. En ce qui concerne les droits de ces communautés qui vivent dans les forêts de tout temps, l'ONG Rainforest Alliance, que vous connaissez, je crois, considère que depuis 2014, la RDC s'est dotée d'une des législations les plus novatrices et les plus protectrices pour ces communautés forestières. Est-ce que vous validez cette appréciation positive ? On entend peu de choses positives sur la RDC. Est-ce que vous validez cette appréciation positive ? Et est-ce que ça veut dire que les forêts de RDC sont aujourd'hui mieux protégées ? Qu'ailleurs, vous sembliez dire le contraire tout à l'heure.
Oui, disons que là, effectivement, en termes sur la législation sur les forêts communautaires, la RDC est allée beaucoup plus loin en termes de reconnaissance d'une quasi-propriété pour les communautés d'un certain nombre de forêts qu'elles occupent. Ceci donc est tout à fait positif. Après, la question, c'est est-ce que ça va améliorer d'une certaine manière l'état des forêts ? Ça, c'est une autre question. Les expériences qu'on a de forêts communautaires aujourd'hui au Cameroun ou au Gabon, finalement, sont plutôt décevantes, dans la mesure où il n'y a beaucoup trop de difficultés pour des communautés pour véritablement avoir une économie autonome. Et très souvent, ces forêts tombent sous la coupe de certains exploitants, de certaines élites, de certains grands personnages, effectivement, qui, d'une part, la répartition des revenus est très inégalitaire dans ces forêts communautaires. En RDC, c'est un pays dans lequel le rôle des chefs et le pouvoir des chefs, effectivement, sur le contrôle, sur les communautés, sur le contrôle des ressources est effectivement très important. Donc, ce n'est pas forcément le fait d'avoir quelque chose qui, de toute façon, me paraît important. Ça relève du droit. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève des droits fondamentaux, c'est que les communautés puissent effectivement avoir la propriété ou le contrôle des terres qu'elles occupent. Ça me paraît un droit humain absolument fondamental. Maintenant, ça ne va pas forcément se traduire par une protection des forêts qui est renforcée. C'est là qu'on a besoin de quelque chose d'autre, c'est là qu'on a besoin de politique, qu'on a besoin d'instruments économiques, qu'on a besoin d'accompagnement. Et fondamentalement, il ne suffit pas de transférer la propriété pour changer les phénomènes de dégradation et de changer la situation de contrainte et la situation de nécessité qui sont que les gens n'ayant pas de capital, n'ayant pas d'intrants pour augmenter, se nourrir tout simplement, ou pour commercer, ils vont défricher de nouvelles forêts. Et ça, ce n'est pas le problème. La propriété toute seule ne va pas changer fondamentalement cette situation.
Alain Kersanti, on change de pays, mais on retrouve les mêmes problématiques. On l'a dit tout à l'heure, vous intervenez en tant que consultant pour des gouvernements. En ce moment, vous intervenez en Côte d'Ivoire, où les producteurs de cacao ont détruit une grande partie des forêts classées en les défrichant pour y planter de nouveaux vergers. En quoi est-ce grave ? En quoi la situation ivoirienne est spécialement grave ?
Bon, perte des forêts de manière massive. Bon, la Côte d'Ivoire était un pays qui était couvert de forêts dans les années 60. C'est aujourd'hui un pays où il reste très très peu de forêts. Cela a des conséquences, bien évidemment, en termes de biodiversité, mais cela a surtout des conséquences, effectivement, en termes de vulnérabilité de la production, y compris de la production de cacao, par rapport à un climat qui change. Le climat change de manière globale. Le fait de détruire des massifs forestiers qui eux-mêmes provoquent, génèrent leur propre pluie par l'évapotranspiration, cela accélère le chemin du climat. Et ce que les Ivoiriens, les producteurs ivoiriens eux-mêmes ont compris aujourd'hui, y compris les grandes sociétés, c'est que le recul de la forêt fait que la production, par exemple, de cacao et d'un certain nombre d'autres productions agricoles, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, c'est absolument fondamental pour l'économie, mais on sait qu'aujourd'hui, le changement climatique et le manque de précipitation qui est lié à cette déforestation va avoir des effets sur la baisse de la production et la baisse de la productivité des cacaoyères. Donc l'objectif du gouvernement, maintenant, c'est de retrouver un couvert forestier et notamment de remettre des arbres dans les systèmes cacaoyers où les paysans ont, pour des tas de raisons, ont enlevé les arbres pour faire du cacao plein soleil. Donc tout le problème maintenant de la politique ivoirienne, c'est comment est-ce qu'on remet des arbres. Et là, il y a plusieurs effectivement pistes de travail que la Côte d'Ivoire et ses partenaires de développement sont en train d'explorer. Une piste, c'est d'avoir ces fameux programmes de paiement pour services environnementaux où on paye les paysans. Et il y a des projets pilotes. Une entreprise chocolatière aujourd'hui paye les paysans pour remettre des arbres dans leur système de culture. Et on peut là aussi, ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est à des systèmes de modification de la fiscalité. Pour faire très vite, l'idée, c'est que le cacao durable, qui est produit de manière agroforestière ou sans la déforestation, soit moins taxé que le cacao qui ne l'est pas. Et de ce point de vue, pour pouvoir donner une incitation aux producteurs qui font du cacao durable.
Alain Kersanti, encore beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Je vois l'air dépité de Julien Clémenceau qui a encore une longue liste de questions à vous poser, toutes avec des réponses tout aussi passionnantes que celles que vous nous avez faites tout au long de cette heure. Merci à vous, Alain Kersanti, d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur nos sites internet respectifs, rfi.fr et jeuneafrique.com. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.